France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous ouvrons cette semaine par des initiatives qui prennent corps dans le département de Côte d'Or, département auquel je suis sensiblement attaché, mais je vais tenter de conserver une certaine objectivité sur les choix opérés parmi les propositions reçues. Beaune, au sud du département, va accueillir le Congrès national de la Ligue pour la protection des oiseaux du 17 au 19 juin. Avant cette date, Bernard Marchizet, président de la LPO de Bourgogne-Franche-Comté, aura pris non pas son bâton pèlerin, mais son vélo pour semer la bonne parole de la biodiversité sur un parcours de 2000 km. Nous allons le rejoindre avant qu'il ne franchisse les collines du Morvan. De quelques dizaines d'hébergements dans les années 50 à plusieurs dizaines de milliers de nos jours, les offres de gîtes et de chambres d'hôtes ont explosé ces dernières années. Le magazine Village, nouvelle édition d'été, analyse ce phénomène comme nous le ferons tout à l'heure avec Sylvie Le Calvez, directrice de publication du magazine.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Bernard Marchizet, bonjour.
Bonjour, bonjour Philippe.
Vous présidez la Ligue de protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez lancé un pari, vous alliez fort hein, quand même, pédaler pour la biodiversité pendant 30 jours et 2000 km à effectuer à travers la région.
Oui, la région Bourgogne-Franche-Comté, ben, au départ, moi je la croyais beaucoup plus petite. Et quand j'ai lancé ce pari fou, mais c'était vraiment un pari fou, c'était de dire, ben, je veux pas faire le tour de la Bourgogne-Franche-Comté en voiture, mais en vélo. J'ai lancé ce pari à mes collègues du conseil d'administration. Ils m'ont dit, mais attention, c'est quand même long, la Bourgogne-Franche-Comté. Et je m'en aperçois au fil des jours, sur la selle, à la pédale. Ben, voilà.
Oui, alors vous pédalez jusqu'au congrès national qui va se tenir à Beaune, 17, 18, 19 juin. Pourquoi ce défi? Que voulez-vous faire savoir à travers cette étrange aventure que vous entreprenez, Bernard?
Mon leitmotiv, c'est de dire la biodiversité s'écroule. On le dit, mais il faut communiquer, rencontrer des gens, aller au contact et surtout aussi voir ces belles actions, parce qu'il y a des belles actions, et j'en entends aussi dans Carnet de campagne. Il y a vraiment sur l'ensemble de notre territoire de magnifiques actions qui sont faites avec soit des lycées, soit des écoles primaires. Ça permet de discuter, de faire passer des messages, d'alerter, puis de dire aux jeunes, attention, maintenant c'est à vous aussi de regarder, de préserver, d'étudier, de protéger toutes ces espèces qui sont en grand déclin. Pour certaines, moi je parle beaucoup de l'hirondelle, parce que l'hirondelle, tout le monde connaît l'hirondelle, c'est 40% d'hirondelles qui une diminution des hirondelles de 40%, 48% pour le chardonneret élégant que beaucoup de personnes connaissent, etc., etc. Et ça va très très vite de manière exponentielle. Et moi je fais ce tour en vélo pour vraiment dire aux gens, faites attention maintenant, il faut mettre des actions en place.
Dans cette démarche, vous voulez toucher les citoyens, les habitants, les locaux, et pas uniquement les professions qui sont très souvent montrées du doigt, professions agricoles, sylvicoles, les chasseurs.
Oui, alors je vais aller à Passenans, je vais aller dans le Jura, je vais rencontrer des viticulteurs bio qui font des actions dans leurs vignes. Et ça m'intéresse énormément parce que je ne le sais pas du tout. Donc il faut que j'aille au contact de ces gens qui montrent un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent installer des haies par exemple, s'ils veulent installer des nichoirs dans leur vigne. Voilà, ça c'est des vrais projets qui sont intéressants pour la biodiversité. Mais c'est aussi de dire effectivement, il y a des espèces qui sont très malmenées en ce moment, comme la tourterelle des bois, par exemple. On n'arrête pas de dire qu'il faut que la tourterelle des bois ne soit plus chassée. Il faut arrêter de chasser cette espèce si on veut que nos enfants, nos petits-enfants, voient encore ou entendent la tourterelle des bois dans les forêts et dans nos forêts. Je pense que déjà, il faut se dire aujourd'hui, il faut arrêter de détruire. Il faut justement construire, poser des nichoirs. Il faut mettre de l'eau quand il fait trop chaud. On le voit en ce moment. Il faut nourrir les oiseaux en hiver. Il faut arrêter les pesticides. Il y a plein de choses qu'on peut faire chez soi à la main. Il n'y a pas besoin de mettre du Monsanto partout. Voilà, toutes ces petites actions, il faut que chacun en ait conscience et que chacun puisse se dire, peut-être que je peux laisser une partie de mon jardin en zone enherbée et je suis pas obligé de tondre tout. Il y a plein de petites actions qu'on peut faire au quotidien.
Le 11 juin prochain, vous allez faire étape dans la belle ville fortifiée de Semur-en-Auxois. Qu'allez-vous faire à Semur ?
Alors Semur, alors là, c'est une action très très intéressante qui a été menée et qui est menée d'ailleurs par un vice-président de la LPO Bourgogne-Franche-Comté, Georges Rizou. C'est un ABC, un atlas de la biodiversité communale, avec une particularité, c'est qu'il est participatif. C'est-à-dire que les habitants de Semur-en-Auxois vont faire des comptages, ils vont participer à la construction de cet atlas de la biodiversité communale. Un atlas de la biodiversité communale, c'est faire l'inventaire à un moment donné de tout ce qui vit. Mais quand je dis tout ce qui vit, c'est pas uniquement la faune, c'est aussi la flore. C'est tout ce qu'il y a sur une commune.
Bourgogne-Franche-Comté.lpo.fr, ça c'est pour la LPO évidemment de la région. Il y a une page Facebook également et notez le congrès national 17, 18, 19 juin à Beaune. Merci.
Avec Jean-Louis Etienne, donc qui va faire une conférence vendredi soir, premier jour du congrès. On est très fiers. De cette conférence.
Je vous souhaite bon courage, même si vous avez une assistance électrique pour continuer à pédaler.
Merci Philippe. Merci.
Merci Bernard.
Bonne journée.
France Inter, carnet de campagne.
Il a donné de sa voix de baryton dans le Barbier de Séville, dans Rigoletto ou Eugène Onéguine. Mais depuis 2019, Michael Micpicone dirige également une association grand cœur. Elle s'appelle Calms, pour collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité. 300 artistes professionnels participent à cette aventure très solidaire qui a vu le jour au lendemain du drame de la rue d'Aubagne à Marseille, ville dont le conservatoire a formé notre chanteur. Un premier concert sous le nom des Voix solidaires avait permis de venir en aide aux personnes délogées suite à ce drame. En 2020, Michael crée un opéra déconfiné pour faire entendre l'art lyrique dans les quartiers prioritaires, au pied des immeubles ou en zone rurale. Et cette année, les Voix solidaires repartent en tournée avec 4 étapes à venir. Le 10 juin prochain à Marseille, le 14 à Avignon, le 23 à Massy, le 28 à Nice. Les opéras de ces 4 villes sont partenaires de cette tournée qui est réalisée au profit de 14 associations caritatives. 100% des bénéfices sont reversés aux associations puisque les 110 artistes et musiciens engagés dans cette tournée actuelle ont accepté de jouer le jeu bénévolement, ce qui est déjà en soi une prouesse. Cette opération solidaire a pour marraine Béatrice Uria Monzon, Calms, France.fr. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Bienvenue chez nous en ce 6 juin, oui. Jour férié. C'est pour ça que vous êtes présente en studio, vous qui dirigez le magazine Village. Dernier numéro, celui d'été. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à une évidence. Alors, c'est vraiment ce qui marche. Il y a une sorte d'engouement et de phénomène généralisé à travers les gîtes et les chambres d'hôtes, les clés du succès. Quelles sont les clés du succès ?
Ah oui, alors les clés du succès, ça a changé. Hein. Il faut quand même se rappeler, en 1955, c'était pas le 6 juin, mais il y avait au Gîte de France, qui est quand même la principale fédération sur les gîtes, hein, des gîtes ruraux, il y avait 146 gîtes au Gîte de France quand ça a été créé. En 2022, 51 000. C'est déjà montré l'ampleur du nombre de gîtes en milieu rural. Et il y en a eu 5 000 nouveaux en 2021. C'est-à-dire que la crise qu'on a traversée a encore plus donné l'envie d'ouvrir des gîtes en milieu rural. Effectivement, le tourisme rural connaît un bond énorme là, depuis ces 2-3 dernières années qu'on voit encore récemment avec les jours fériés qui sont passés. Alors les clés du succès, c'était ça la question,
oui.
C'est effectivement de plus en plus de services, c'est-à-dire qu'on ne veut plus venir dans un gîte avec ses draps, l'essentiel, le papier toilette, etc.
J'ai jamais emmené mon PQ dans un gîte.
Et une époque, il fallait tout emmener, y compris ses draps, voire sa couette. Et effectivement, il y a encore même des gens qui disent, est-ce qu'il faut venir avec ses draps, ou est-ce qu'il faut venir même ses couvertures, ça s'entend encore. Ouais. Eh bien non, aujourd'hui, pratiquement tous sont équipés avec les draps, le service, souvent même le ménage, et à l'arrivée arrivé, on a de plus en plus de services aussi. Par exemple, petit panier garni ou un apéritif dînatoire parce qu'on est là un peu longtemps avec les propriétaires. Donc ça, ça fait vraiment partie des grosses évolutions. Puis un gros changement aussi, c'est qu'on ne vient plus seulement pour une destination, on vient plutôt pour l'habitat en lui-même. Oh, le gîte a l'air sympa, ça a l'air joli, c'est construit en fuste, ou c'est un gîte écolo, c'est un gîte nature, et il est situé près d'un petit étang. Donc c'est pas seulement la destination, c'est le gîte lui-même qui est gage de succès. Donc il y a intérêt à le soigner et à ce qu'il soit aujourd'hui le plus nature possible, parce que ça fait partie des clés aussi pour réussir son hébergement.
D'où cette vague des hébergements insolites?
Oui, hébergement insolite dans les arbres, effectivement, cabane perchée qu'on voit, habitat écologique dont je parlais, aussi, par exemple, des sortes de bains nordiques dehors, effectivement, pas forcément la piscine, mais de plus en plus de gîtes font des bains nordiques chauffés au feu de bois, et tout ça, ça marche, et ça se loue quand même relativement cher la nuitée, et ça fait une bonne source de revenus pour les ruraux qui ont ouvert ce genre d'établissement, souvent en complément de leur habitation. Ça peut pas être l'activité principale, bien sûr.
Il y a quelque chose qui m'a alerté lorsque ça a été annoncé, c'est l'accord entre Airbnb et l'association des maires ruraux de France. Je me suis dit, Airbnb, que vient-il faire dans nos campagnes? Bah, finalement, il participe financièrement aussi au développement des hébergements.
Tout à fait, il conseille en plus aussi beaucoup les porteurs de projets, et puis c'est plus 50% de destinations rurales 2021 suite à cette action entre l'association des maires ruraux de France et Airbnb. Ce sont souvent des lieux qui avant n'accueillaient pas de touristes parce que pas d'équipement, pas d'hôtel, ou plus d'hôtel, mais souvent pas d'hôtel. Et donc, ça a permis quand même de capter une valeur économique liée à ce tourisme en plein milieu rural, là où il n'y en avait pas. Donc, c'est vrai qu'autant en ville, parfois, ça pose question quand on peut plus se loger parce que les logements sont transformés en Airbnb dans des endroits saturés, autant pour du tourisme rural, pour faire cette transition, ça avait du sens. Ouais.
Pourquoi on aime les dossiers de Village Magazine? Parce que lorsque vous partez d'un état des lieux, vous faites appel aussi à ceux qui agissent sur le terrain. Et c'est ce qui nous plaît, nous on a besoin toujours du concret, des exemples concrets. Vous donnez celui de Gaël et Marc qui ont une maison d'hôte en Haute-Vienne, Nathalie dans le Lot avec ses perchoirs du Quercy, comme elle les appelle, les maisons insolites, ou en Ardèche, Annick au Mât de Saribou. Très souvent, on dit que les personnes qui prennent en charge ou créent des gîtes ou des chambres d'hôtes sont des néo-ruraux, nouvellement installés à la campagne, est-ce vrai ?
Oui, c'est vrai, bien sûr, parce que souvent, ils arrivent des fois, en plus avec un petit pécule qui leur permet de restaurer. Mais c'est pas, à l'origine, le tourisme vert, c'était quand même des agriculteurs qui, pour se diversifier pendant la crise agricole, ont créé ce genre d'hébergement. Donc, aujourd'hui, certes, des néo-ruraux continuent d'acheter des biens pour faire de la location, mais il y a aussi beaucoup de ruraux, et surtout d'agriculteurs qui, quand même, ont permis le développement du tourisme rural. Il faut se rappeler, dans les années 60-70, c'était quand même ça l'origine. Donc, on ne peut pas dire que c'est une affaire de néo-ruraux, une affaire de ruraux. De tout temps, il y a eu des agriculteurs qui se sont lancés dans le tourisme rural, y compris pour rénover des bâtiments qui ne pouvaient plus avoir d'usage agricole.
À la fin du mois, on parlera de l'attractivité des territoires à travers le tourisme, qui joue un rôle économique, parce que vous l'écrivez, les séjours sont de plus en plus longs. Comme oui, si on était tenté au fur et à mesure de tâter du terrain puis de voir si on ne pourrait pas s'y installer définitivement.
Oui, ça c'est ce qu'a remarqué effectivement notre journaliste Emmanuel Maillard qui est allé sur le terrain rencontrer ses acteurs. C'est qu'on disait plus ça va, plus les séjours sont courts. Les gens partent 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et là, on a un retour du séjour long. C'est quand même questionnant parce que avant on disait c'est morcelé, on prend 3 fois une semaine. Et maintenant, on peut avoir un mois de location dans un gîte. Ça ne se voyait pas depuis des années. Et effectivement, le télétravail notamment a contribué à ça. Les gens s'installent dans le gîte pour un mois. Puis finalement, si ça se passe bien, ils disent, et si je continuais? Et si je venais vivre par ici? Et c'est là qu'il y a toute l'articulation à faire dont on parlera effectivement en fin du mois.
Merci Sylvie. Villagemagazine.fr pour l'adresse.
Merci Philippe, à bientôt.
Un bref retour en Côte d'Or pour signaler le travail mené par l'association La Graine et le Potager depuis Ruffet. Les Beaunes, où elle défend depuis 2010 la liberté des semences potagères, dans l'agriculture paysanne ou familiale. Elle organise des formations, dont une formation à la production de semences qui aura lieu les 25 et 26 juin prochains à Bouillant, toujours dans ce département de Côte d'Or. La Graine et le Potager.com pour l'adresse.